9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
En parlant à Alain Perfit, qui nous a transmis un certain nombre des confidences que lui avait faites le général de Gaulle, voici ce que de Gaulle disait. Tardieu avait tout compris, mais il était bien le seul. Voilà ce qui s'appelle un hommage. Et on peut dire que les deux hommes, De Gaulle et Tardieu, d'ailleurs, ont en commun cette lucidité, cette espèce de clairvoyance dont on doit pouvoir dire qu'ils en font des prophètes en politique. Un peu isolés, comme tous les prophètes. Dès le lycée, dans les années 1890, André Tardieu manifeste une intelligence dont on doit pouvoir dire qu'elle est phénoménale. Son père était avocat. Il a grandi dans les livres, dans un bel hôtel particulier du 8e arrondissement, entouré d'amour. Son professeur de lettres à Condorcet note « Imagination facile, brillante, esprit juste, souple et précis ». À 18 ans, André a déjà une licence de lettres, il est reçu major à Normale Sup, puis au grand concours des affaires étrangères et débute sa carrière au cabinet de Waldeck-Rousseau. Waldeck-Rousseau, président du conseil de l'époque, était un ami de son père. C'est aussi le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est que la présidence du Conseil était toujours assumée en même temps qu'un des portefeuilles du gouvernement. Waldeck-Rousseau est non seulement ministre de l'Intérieur, mais il l'est à l'époque de l'affaire Dreyfus, et tout ça passionne André. Il va renoncer à la prestigieuse carrière diplomatique pour devenir simple inspecteur des administrations. Il se spécialise dans la visite des hôpitaux psychiatriques, des orphelinats et des prisons. Vous voyez que ça n'est pas choisir la voie de la facilité. À la petite roquette, les cellules ne sont pas chauffées. Il y règne en hiver un froid glacial. Les carreaux manquent à nombre de fenêtres, écrit-il dans ses rapports. Il a l'intention d'être aux côtés de ceux qui souffrent, de ceux qu'il appelle les relégués de la République. En parallèle, il va écrire des articles de géopolitique pour Le Figaro, pour Le Temps, qui est le grand quotidien le plus prestigieux de l'époque. Le chancelier allemand, von Bülow, lit les articles de Tardieu et il commente « Il y a 6 grandes puissances en Europe et une 7e qui est André Tardieu ». Vous imaginez la taille d'un hommage comme celui-là. Il se trouve que la collection Tempus vient de rééditer, vient d'éditer en tout cas, la biographie de Tardieu par Maxime Tandonnet. Voici ce que nous dit Maxime Tandonnet. D'une élégance raffinée, il revêt les derniers vestons croisés à la mode, assortis d'une éternelle pochette blanche. Sportif, il fréquente les terrains de golf de la région parisienne. Avant tout épicurien, il a une prédilection particulière pour le champagne. Ses deux bulldogs français, courts sur pattes, compagnons inséparables, l'accompagnent partout. Et jusqu'à sa table, prennent sagement place à ses pieds, le bon vivant débordant d'humour, de gaieté, est aussi un insatiable Don Juan, qui collectionne les conquêtes féminines, affectionnant particulièrement les demi-mondaines rencontrées chez Maxims. Voilà donc, pour la belle époque, ce qu'on doit pouvoir appeler un bel esprit.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
1914, André part se battre, il va s'illustrer au front, dont il reviendra blessé. Poincaré le nomme à ce moment-là haut-commissaire à Washington. Il est chargé de coordonner l'effort de guerre avec les États-Unis, ce qui, vous l'avouerez, n'est pas une petite chose. Clémenceau repère son efficacité, qui est prodigieuse. Il suffit que Tardieu soit sur un dossier pour que les choses avancent, c'est incroyable. Il le recrute pour l'aider à négocier le traité de Versailles. Et le jour de la signature, Tardieu est là, dans la Galerie des Glaces, bien sûr, au château de Versailles. Il est en arrière-plan, il est discret, il est fier d'avoir aidé à mettre en place ce traité. Alors le traité de Versailles, vous savez ce qu'on en pense aujourd'hui, on sait à quel point il a été sans doute mal conçu à tout point de vue. Et lui-même plus tard va s'interroger sur l'efficacité de ce traité. Il trouve la France et la Grande-Bretagne trop faibles face à l'esprit de revanche des Allemands. Le 23 novembre 1923, à la Chambre des députés, voici ce qu'il déclare. « Je ne suis pas alarmiste, mais je veux qu'on regarde les choses en face. Si l'Allemagne, après avoir armé librement pendant 14 mois, continue pendant les mois suivants, cela voudra dire qu'à une échéance indéterminée que je ne peux pas fixer, mais qui est certaine, nous aurons la guerre. » C'est ce qui s'appelle de la clairvoyance. On est en 1923, je me permets de vous rappeler. 3 ans plus tard, il est triomphalement réélu député à Belfort au terme d'une campagne fulgurante. Il incarne l'énergie Tardieu, il incarne la rupture et aussitôt, il devient ministre dans le gouvernement Poincaré, d'abord aux travaux publics, puis à l'intérieur. C'est un meneur d'hommes, il est toujours sur le terrain, en déplacement, mais avec beaucoup de chaleur, il est empathique. C'est un homme volontaire, vous l'aurez compris, on est en pleine période de l'explosion de l'automobile et il fait construire des milliers, je dis bien, des milliers de kilomètres de routes. C'est lui qui va d'ailleurs lancer l'étude de la toute première autoroute en France. Dès le début de sa carrière, Tardieu fait l'éloge d'une fonction publique qui, à ses yeux, a été trop décriée. Je le cite. « Ils étaient les défenseurs nés de l'intérêt public. L'équité exige qu'on rende hommage à certains grands commis de la République dont la carrière ne fut point faite d'intrigues et dont la compétence a souvent sauvé le pays des incompétences politiques. » Sous la Troisième République, un homme politique qui s'exprime de cette manière-là, j'avoue que c'est assez extraordinaire, moins qu'on puisse dire, et qui ne ressemble pas à ses collègues. Au ministère de l'Intérieur, la priorité à l'époque est déjà la lutte contre les communistes. Il faut se remettre dans le contexte. On est en 29. Staline a pris le contrôle, bien sûr, de l'Union soviétique à travers le Comintern. Il pousse tous les communistes des autres pays, notamment en Europe, bien sûr, à provoquer des révolutions. En France, c'est Maurice Thorez, le communiste Maurice Thorez, qui appelle littéralement à l'insurrection le 1er mai 29. C'est le mot d'ordre « tous à la rue » qu'on voit sur la première page de l'Humanité, vous imaginez le choc. Tardieu et le préfet Quiap vont employer la méthode forte contre ces insurgés. Ils interdisent carrément la manifestation. Ils font arrêter dès le matin du 1er mai plus de 2000 manifestants. Et le Petit Parisien va relater le lendemain « Le 1er mai fut d'un calme absolu ». Cette fermeté provoque évidemment l'admiration de la droite, mais l'indignation de la gauche, ça y est, Tardieu finit par se faire des ennemis. Thank you. comme c'est enlevé, comme c'est brillant. Ça ressemble à Tardieu, ce deuxième mouvement du concerto pour piano de Reynaldo Han. C'est le pianiste coréen William Yoon qui nous ravissait les oreilles, accompagné par l'Orchestre symphonique de la radio de Berlin, sous la direction de Valentin Ouryoupin.
Vous écoutez Radio Classique.
Arrive le crack de Wall Street, hein, 24 octobre 29, vous rappelez, les actions américaines qui chutent d'un tiers. Le président Doumergue invite Tardieu à former un gouvernement. Je n'ai jamais eu la passion du pouvoir, je suis en octobre 29 président du Conseil sans l'avoir désiré et en regrettant de le devenir, dira-t-il. Bon, il accepte quand même la responsabilité. La France n'est pas encore touchée par la crise, vous savez que ça va se faire avec du retard en France. L'économie est en grande partie agricole et donc elle est protégée. En tout cas, c'est ce que pense la classe politique, pure illusion selon Tardieu, qui voit bien que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche déjà sont frappés de plein fouet et que ça va bientôt être le tour de la France, forcément. Et pour faire face, Tardieu pense qu'il faut rompre avec la sagesse monétaire de Poincaré. Il faut maintenant investir, il faut soutenir la demande, faire une politique keynésienne, mais à la française. On est 3 ans avant le New Deal américain, ou alors on va avoir le keynésianisme le plus effréné. Nouveau signe de clairvoyance quand même, hein, de Tardieu après la juste lecture de la politique allemande. Il impose au gouvernement une activité effrénée, il puise 8 milliards dans les excédents accumulés par Poincaré pour lancer de grands travaux, par exemple les fortifications de la ligne Maginot à la frontière. Surtout, il va compter industrialiser le pays, outiller les usines et les exploitations agricoles aussi, qui à l'époque étaient très sous-équipées. Une politique d'équipement national, ainsi la qualifie-t-il. Tardieu poursuit aussi la politique sociale engagée par ses prédécesseurs. C'est le fonctionnement de la Troisième République. Vous savez que les gouvernements passent, mais les réformes sont maintenues, suivies. Et Tardieu, ça fait une grande différence avec notre époque, Tardieu implore les députés « Je me présente devant vous avec vos enfants dans les bras. Ce n'est pas le moment de me tirer dessus, dit-il. » Et il instaure les assurances sociales qui constitueront la base de la sécurité sociale, mais alors plus tard, après-guerre, bien sûr. Tardieu restera toujours fier de ces mesures de protection sociale. Sur tous les points, la droite rechigne, la gauche fait de la surenchère. Ça n'est pas simple, évidemment, de tenir la barque dans un tel contexte. Et pourtant, c'est un scandale boursier, l'affaire Oustrick, qui va emporter le gouvernement Tardieu. Le garde des Sceaux Perret soupçonné d'avoir protégé une banque frauduleuse, la fameuse banque Oustrick, qui fait faillite, qui ruine ses petits épargnants. Donc le banquier va en prison. Le Sénat vote la censure du gouvernement qui tombe. Les radicaux, les socialistes voulaient la peau de Tardieu, qu'on considérait comme arrogant, comme un peu trop bonapartiste, si je puis dire. Bref, ils ont sa peau. Il va partir en décembre 1930, sans avoir pu mettre en œuvre tout son plan d'équipement national, alors que le PIB chute, que la panique bancaire menace, et quand Tardieu revient aux affaires, 2 ans plus tard, en 32, là, cette fois, ça y est, on est en plein marasme. Eh oui, on n'a pas prolongé, là, pour une fois, les programmes. Quand je parle de marasme, ça représente 250 000 chômeurs, 15% du chômage dans l'industrie. En Allemagne, le parti nazi monte en flèche du fait de cette inflation extraordinaire. Vous vous rappelez la situation, les nazis sont à 37% aux législatives de 1932. Et Tardieu, à l'époque, est ministre de la guerre dans le gouvernement. Il sera bientôt président du Conseil lui-même. Il se trouve qu'il a lu Mein Kampf, contrairement à un certain nombre d'autres. Il écrit « Nul n'a le droit d'être surpris qu'à tout le monde était prévenu. Monsieur Hitler a écrit un livre. » Donc, il suffit de le lire et de savoir à qui on a affaire. Et pour contrer le péril nazi, Tardieu va élaborer tout un plan qu'il présente à la SDN, à Genève, à la Société des Nations, pour interdire les armes les plus offensives, bombardiers, chars, canons lourds, pour établir une force d'interposition internationale. C'était un peu, vous imaginez, les bérets bleus de l'époque, pour imposer l'arbitrage contraignant de la SDN, des propositions concrètes qui vise surtout à désarmer l'Allemagne, car tout ça est dirigé contre cette nouvelle Allemagne nazie. Sauf qu'en France, on n'écoute pas Tardieu. Les nationalistes de l'Action française considèrent l'arbitrage de la SDN comme une atteinte à la souveraineté nationale. Quant aux socialistes, ils reprochent à Tardieu un discours trop va-t-en-guerre, autoritaire. Encore une fois, cette autorité ne plaît pas du tout à la gauche. Et pourtant, Tardieu va démontrer que ce n'est pas le cas quand le président Paul Doumer est assassiné par un russe nationaliste, par Gourgoulov. Tardieu pourrait s'emparer du pouvoir, c'est très facile, mais au contraire, il choisit de maintenir les élections législatives qui avaient été programmées pour mai 32, et ces élections, il les perd, c'est l'arrivée du cartel des gauches, hein, avec une politique d'apaisement face à l'Allemagne, et même, disons les choses, une politique de désarmement. Que faire avec un pays qui ne veut pas consentir à l'effort nécessaire à son salut, dit Tardieu. C'est l'opinion française qui constitue le plus grand péril. Le Parlement et son reflet, c'est le long travail de décomposition, chacun songe à ses intérêts immédiats, c'est l'éducation politique de la France qu'il faudrait refaire entièrement. Il est maintenant dans l'opposition, Tardieu, a sonné l'alarme toujours contre Hitler, et dans l'illustration, il écrit « La barbarie s'est réveillée, elle est à nos portes. Si nous restons tels que nous sommes, il nous arrivera quelques jours de nous retrouver à Paris sous le même régime qu'à Berlin, avec la bâtonnade, les camps de concentration, l'antisémitisme, les lois de stérilisation, et alors la nuit de la servitude aura tôt fait de s'étendre sur toute l'Europe continentale. » Par ce qu'ils infligent à leurs concitoyens, les nationalismes voisins révèlent le sort qu'ils réserveraient à leurs adversaires vaincus, l'esclavage au mieux, peut-être l'anéantissement. C'est ce qui s'appelle être véhément et clair. Il dit les choses, et pour préparer la France à affronter cette menace, André Tardieu va préconiser une réforme institutionnelle vers un régime un peu plus stable, avec un exécutif plus fort. Le président, dit-il, devrait pouvoir dissoudre la Chambre pour dissuader les députés de voter la censure tous les quatre matins. Il propose aussi que tout amendement parlementaire soit nécessairement financé. Ça, c'est pour éviter les déficits qu'il voit venir. Le 6 février 34, d'abord il y a eu l'affaire Stavisky, vous savez, puis ce 6 février 34 avec les ligues qui manifestent partout et menacent de marcher sur la Chambre, la République tremble, Doumergue va former un gouvernement d'union nationale et il appelle Tardieu auprès de lui. Il lui demande de faire voter par le Congrès la réforme constitutionnelle qu'il avait l'intention de mettre en œuvre, justement pour renforcer le régime, disons. Sauf que là, la gauche n'est pas du tout d'accord, une fois de plus, vent debout, les députés auront cessé d'être libres, dit Léon Blum. On veut détruire l'essence du régime parlementaire. Et le journal Le Populaire parle même d'une fascisation des institutions. Bref, les radicaux vont suivre Blum, le gouvernement tombe, c'en est fini de la réforme. Et pour Tardieu, qui pensait qu'il avait peut-être trouvé la solution, eh bien c'est désespérant, il est consterné, que voulez-vous ? Un extrait du Bacchus et Ariane d'Albert Roussel, l'orchestre de Paris était sous la baguette de Christophe Eschenbach.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Tardieu est amer en 1935, découragé et même malade. Sur les 20 ans que j'ai consacrés à la vie parlementaire, j'en ai perdu au moins les trois quarts, dira-t-il. Et il se retire sur la Côte d'Azur, dans un hôtel isolé des hauteurs de Menton. Il y fait construire une villa absolument somptueuse et contemple le miroitement de la Méditerranée. On le voit respirer les parfums de son grand jardin avec sa compagne à ses côtés quand même. Il a du mal à se résoudre au silence, il est tenaillé par le sens de la responsabilité. Alors il va reprendre la plume et il va écrire dans Gringoire. Évidemment, ça n'est pas le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas un magazine neutre. Peu à peu, la rédaction dérive vers une forme de radicalisme de droite, avec même des accents antisémites, et Tardieu combat la ligne de ce journal, il la combat de l'intérieur, il espère guider les lecteurs au lieu de les suivre, mais tout ça... Quand on est dans l'affaire, on le comprend. Quand on voit les choses de l'extérieur, évidemment, c'est toujours plus simple. Tardieu rêve de rendre un supplément d'âme à la France, c'est-à-dire un supplément d'humanisme, par l'enseignement beaucoup plus large de l'histoire, de la littérature, de la philosophie, des sciences. Il dit que c'est la culture qui sauvera la France. Si ça, c'est pas de la clairvoyance, pardon. Il veut aussi refonder la démocratie, notamment en élargissant le suffrage aux femmes. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, elles ont toujours pas le droit de vote. Il voudrait enfin permettre le référendum populaire. Le titre de son livre, d'ailleurs, illustre toutes ses ambitions. Ça s'appelle « La révolution à refaire ».
Franck Ferrand sur Radio Classique.
1938, c'est l'Anschluss, hein, l'Allemagne envahit l'Autriche et Tardieu fulmine. Il y a chez nous des partis et des hommes qui, ne voulant pas la guerre, bêlent si lamentablement la paix qu'ils nous conduisent comme des moutons à l'abattoir. Et il va y avoir en effet en septembre 38 ces fameux accords de Munich qui livrent à Hitler la Tchécoslovaquie. C'est la paix, mais à quel prix, écrit Tardieu. L'Angleterre a été humiliée, plus encore la France qui abandonne une nation alliée. Le 4 mai 1939, Tardieu écrit une lettre ouverte à Hitler. « Vous avez brassé une étrange mixture d'outrage, de cynisme, de vanité et d'hypocrisie. Si par votre faute la guerre éclatait, j'espère que l'on saurait, après l'avoir gagnée, vous imposer les conditions que justifie plus que jamais votre passion de dominer l'Europe. » Je parlais de prophétisme politique. Avouez qu'il y a quelque chose de prophétique là-dedans. D'ailleurs, il dit « Même ceux qui inclineraient à nous sauver par un bolchevisme français, un hitlérisme français ou un fascisme français ne tarderaient pas à le regretter. » Mais voilà que le 22 juillet 1939, André Tardieu est frappé par une attaque cérébrale. Il est voué à une forme d'immobilisme. D'ailleurs, il est muet. Il ne pourra qu'assister impuissant à l'invasion de la France, à l'institution du régime de Vichy. Il survivra assez longtemps pour connaître la libération quand même. Les gens m'écrivent « Qu'avez-vous fait lorsque vous étiez au pouvoir ?»« Eh bien, j'ai fait ce que j'ai pu », écrira-t-il. Il s'est beaucoup battu, André Tardieu, sur le terrain politique et sur le terrain des idées. Voici une de ses idées. Le problème n'est pas de chercher de grands chefs. Le problème, c'est de rendre à quelques millions de Français un esprit public.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Pierre Anquetin d'avoir fait revivre ce personnage assez extraordinaire, singulier sous la Troisième République. Oh, à propos de personnages singuliers, j'ai à mes côtés un certain Christian Morin qui est là en ce lundi de Pâques.
Où est-il ?
Vous n'avez pas prolongé votre week-end, vous non plus ?
Non, bah, pas du tout. Écoutez, non, mais c'est beaucoup plus agréable d'être avec des auditeurs,
n'est-ce pas ?
En direct, où qu'ils soient, même si vous êtes en vacances, vous qui nous écoutez, qui écoutez Franck, que vous retrouverez à 14h, on change de sujet, là, c'est Roland le premier Normand.
Oui, le traité de Saint-Clair-sur-Epte, si je ne m'abuse, en 911.
En 911, à quelle heure ça s'est passé ?
Ça devait être dans la fin de la matinée.
Fin de matinée, bon, très bien. Avant le déjeuner, en quelque sorte. Voilà, parfait. On vous retrouve bien sûr à 14h et demain matin avec grand plaisir. Je le dis d'ores et déjà, demain, bien sûr, ce sera l'anniversaire de la disparition de l'évocation de Georges Pompidou, que vous évoquerez dès 9h, bien sûr, à 8h-5, toujours ce petit rendez-vous, le point du jour avec David Abiker. Et je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée à vous.
Et puis permettez-moi d'utiliser la phrase classique, joyeuse Pâques.
Joyeuse Pâques à tout le monde.